Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes. Une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul, avec aujourd'hui Edgar à la technique, que nous remercions. Je vais recevoir dans quelques instants un grand poète de la région et qui a une audience nationale, si ce n'est internationale, Georges Catalot. Georges Catalot, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu dans ce studio de la rue de Sally de Radio Occitanie qui vous attend depuis bien longtemps, mon cher Georges.
Ben oui, c'est-à-dire on est passé par des épisodes dont tout se serait passé. Des rendez-vous pas galants, des rendez-vous médicaux pendant 6 mois. Bon, là, on en sort. Voilà.
Eh bien, nous sommes très, très, très heureux de vous recevoir. Alors, je vais, si vous le voulez bien, vous lire 4 notes de lecture, puisque ce sont des livres qui m'ont paru importants à signaler à nos éditeurs. Il s'agit d'abord d'un livre de Halima Hamel. Halima Hamel, que vous pourrez voir à Toulouse, puisque c'est une chanteuse qui est en activité actuellement à Toulouse, que vous pourrez voir au mois d'octobre à la Cave Poésie, justement pour parler de ce livre dont je vais vous faire la petite critique, de Medea Mountains et autres textes. C'est aux éditions L'Œil d'Or, ça vient de paraître, et c'est un petit volume de 77 pages qui vous coûtera 13 euros. Alors, pourquoi ce petit volume a-t-il tellement retenu mon attention? Parce que la tragédie de la décennie noire de l'Algérie ne peut s'effacer. Alors elle a ressurgi, cette tragédie, à Toulouse, chez nous, spasmodiquement, le 4 mai 2023, qui était le jour où l'Académie des Jeux Floraux fêtait le 7e centenaire des premières joutes des 7 troubadours. Donc ce jour-là, cette tragédie rejaillit dans les larmes d'une poète algérienne, Samira Negrouche, qui, dans son discours, évoquait la mort de Tahar Djaout. C'était au moment de recevoir ses lettres de maîtrise, donc, de l'Académie des Jeux Floraux. Et c'est à Toulouse, aussi, qu'est venu se réfugier notre ami, mon cher Georges, le poète Abdelmajid Kawa, qui est un journaliste et un homme de radio. Et c'est à Toulouse, au théâtre Sorano, en janvier 2019, qu'a été donné Medea Mountains d'Halima Hamel. C'est un long poème autobiographique qui déroule le fil ténu d'une vie, celle d'une femme qui est née à Nantes, d'une famille algérienne, avec 5 filles. Qui voit ses sœurs livrées à la fatalité d'un destin destiné par le père, dans la complexité et dans la complicité incompréhensible de la mère. Celui du retour définitif à Médéa en vue d'un mariage arrangé. Alors, tout le traumatisme de ce choc de deux mentalités, la première qui est une mentalité ouverte des jeunes françaises qui sont promises aux études, et l'autre une mentalité fermée sur sa tradition de femmes amputées de leur vie, qui sont réduites à la domesticité de leur mari, qu'une mère abandonne ses filles, un sort aussi sordide épouvante la conscience d'Halima Hamel. Une de ses sœurs parvient à fuir le jour même du départ pour l'Algérie. Alors son courage lui épargne une vie recluse à Médéa et elle vit désormais en France près de sa sœur et de sa mère. Mais une des autres filles, remise à Médéa, elle, va être égorgée avec son mari par les islamistes en 1997. Dans le long poème scénique « Medea Mountains » nous immerge dans la violence ritualisée des vies empêchées, dans l'acceptation suffocante de mœurs qui maintiennent la femme dans l'esclavage de l'homme. Medea Mountains est une catharsis pour parvenir à vivre dans l'image d'une sœur innocente égorgée, mais aussi un acte de conscience, celui de nommer par l'intensité de l'écriture, le désastre de la résignation. Voilà, je rappelle le titre, Halima Hamel, Medea Mountains et autres textes aux éditions L'Œil d'Or 2023. Vous pouvez vous procurer ce livre au mois d'octobre, lors de... Non, pardon, le 17, je crois que c'est le 17 septembre, excusez-moi. Le 17 septembre, je pense, lors de des journées des éditeurs invités dans le lieu de la cave poésie. Voilà. Et puis... Je voudrais aussi vous parler de Lydie Salvert. Lydie Salvert, qui a, alors, ça absolument, Georges, il vous faut le lire. Lydie Salvert, l'irréfutable essai de successologie, c'est éditions Seuil. Ça vous coûtera 17,50 €, mais vraiment...
Non seulement je connais, mais j'ai côtoyé cette personne quand j'étais instite pour mon premier poste à Sainte-Gabelle-les-Baccarés.
Ah oui, oui, elle est, oui, très bien, très bien. Alors, nous avons eu le plaisir, à Toulouse, de lui remettre un prix à l'Académie des Jeux Floraux, je pense que c'était il y a 2 ans. Alors, donc, Lydie Salvert, qui occupe une place prépondérante parmi les grands auteurs de notre siècle, on peut dire ça, hein, tu es d'accord, hein. Alors, nous a habitués aux romans qui nous saisissent d'heureuses admirations par leur puissance. Impossible d'en sortir indemne. Se renouvelant quelquefois par le poème, avec sa magie de l'oralité, elle nous stupéfie par le style éminemment jouissif de son irréfutable essai de successologie. Elle s'était attaquée par le biais du poème au travers de notre société marchande, mais en empruntant la voie de l'essai, elle décuple par son ton l'efficacité de tourner nos mœurs mercantiles en totale dérision. La voilà qui se lance, tête baissée, dans la plus grande apologie de ceux qui n'ont qu'un but dans notre monde, celui du succès. Car le succès peut tout. Il transforme l'imbécile en génie, il efface nos défauts, nos mauvaises actions, il est aphrodisiaque, et puisqu'il faut s'acharner à la conquête de ce succès, remède miracle à tous nos maux, elle va nous en donner brillamment la recette aux multiples facettes. D'abord, il faut plaire au plus grand nombre. Savoir se comporter dans le seul souci de son propre intérêt dans le monde littéraire. Et elle dit qu'elle le connaît bien. Et fuir, par exemple, alors, qui c'est qu'il faut fuir ? Immédiatement, le poète débutant. Parce que il va vous accaparer avec ses problèmes d'édition. Et la médiocrité nous étant naturelle, il faut composer avec elle, puisqu'elle nous ouvrira les portes du succès si nous savons conquérir la classe moyenne. L'essentiel, c'est quoi l'essentiel ? C'est de paraître. Paraître. Aujourd'hui, l'habit fait le moine. Les moches et les vieux ne peuvent plus rien espérer. Puisque tout s'achète, il faut apprendre à vendre du vent, à médire d'autrui, à mépriser à bon escient, et à faire bon usage du malheur d'autrui et du mensonge. Au regard des règles du succès, des poètes tels que Rimbaud ou Sylvie Plath, par exemple, n'étaient que des infirmes en matière de gloire et l'ont payé leur vie. Alors ce catalogue hilarant des ingrédients du succès, c'est un exercice de style qui est d'autant plus remarquable qu'il est ponctué par l'authentique culture, bien entendu, de Lydie Salvaire, hein, qui recense tous les artistes qui ont été aussi peu doués que possible dans la conquête de ce succès, et qui c'est qu'on voit là. Alors d'abord Horace, Paul-Jean Toulet, qu'elle cite d'ailleurs avec beaucoup d'à-propos et beaucoup d'humour, La Fontaine, Rilke, Racine, Corneille, Rousseau, Zata Bea, Hemingway, Sylvie Plath, etc. J'en passe, c'est des meilleurs, voilà. Alors, heureusement, les quatre dernières pages apaisent l'incompréhension inquiétante quand même qui finit par s'emparer du lecteur qui est sidéré des certitudes sur la valeur inébranlable du succès. Lequel succès, comme vous le disiez, Georges Catalot, mène bien entendu à l'argent. Voilà, parce que c'est quand même derrière le succès, ce que l'on recherche avant tout, c'est le confort matériel. Bon, alors, à vous de découvrir ces dernières quatre pages pour votre salut, chers auditeurs. Voilà. Et je vais finir par Louis Aragon. Louis Aragon, dont on a fêté l'année dernière le cinquantenaire de sa mort. Hein. Et j'ai retenu, peut-être le... Bien entendu, il y a le roman inachevé, mais je ne sais pas si vous serez d'accord, mais Les Chambres, voilà, c'est un petit recueil. Et je crois que c'est un petit recueil vraiment qui définit tout Aragon et qui est celui qui m'a certainement le plus bouleversé. Alors, Les Chambres, ou Poèmes du temps qui ne passe pas, Gallimard le publie, donc l'a publié en 2022. Donc, Les Chambres, dans Poèmes d'Aragon. Alors, c'est dans cette année de rupture, 1968, que Louis Aragon, qui était au fait de sa gloire poétique, entame l'écriture de ses plus bouleversants poèmes d'amour, qui seront d'ailleurs les derniers. Alors, c'est les éditions Le Seuil qui va les publier en 1969, hein, et c'est Gallimard qui va les rééditer donc en 2022. Alors, jamais le génie poétique de ce poète mythique du XXe siècle n'avait été aussi puissant dans ses aveux d'une réalité cruelle mais exaltante qui est celle d'un bilan d'une vie dominée par les affres de l'amour et qui s'enfonce dans la vieillesse. Une humanité désarmante, tissée d'une humilité sans pudeur, donne à ce recueil une grandeur à nul autre pareille de son œuvre grandiose. Et le style inégalable est toujours aussi percutant. Les poèmes sont œuvres de mémoire, celles d'une vie entière qui laisse ce goût habitué d'un étirement sans cesse prolongé et pourtant le déchirement d'avoir à quitter la scène. Une vie faite d'ombre et de soleil, comme l'amour voué à Elsa avec son éblouissement et ses orages. Cet amour fou qui a été perdu juste le temps d'en connaître l'effrayante absence, et un poème là absolument magnifique sur cette peur panique d'avoir perdu Elsa. L'amour s'abrite dans les chambres qui défilent dans la mémoire, d'où le titre du livre, Dans les chambres. Et celui qui a tant vécu n'a plus de secret à préserver devant la mort qui s'avance. La sincérité qui en résulte autorise cet hymne à l'amour que sont les chambres à ne rien éluder d'une réalité triviale, celle d'une violence propre à l'homme. Alors je le cite, il y a des vers assez terribles. Chambre d'attente où la femme patiemment prépare son corps à la violence. L'amour est la seule consolation devant la finitude de la condition humaine, mais il ne parvient pas à entraver une désolante solitude. L'amour est le temps qui ne passe pas. Ce qui fait dire, quelques décennies plus tard, un poète que nous connaissons bien, André Velter. Dans son dernier livre de poèmes, il dit ceci: je ne peux me passer de ce qui ne passe pas. Je ne peux me passer de ce qui ne passe pas. Et alors il dit ça dans Trafiquer dans l'infini, aux éditions Gallimard également. Alors Les Chambres, à lire absolument, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre de la poésie du XXe siècle, qui me semble être, il est impossible d'ignorer ça. Voilà. Voilà, je vous remercie de cette petite intermédiaire, mais je tenais vraiment à faire part
bien,
de ces émotions.
Bien voilà. Raison. Voilà. L'œil du critique est là. Oui. Voilà. Et un petit mot peut-être sur l'affiche rouge. C'est oui, mon ami Lucien Vasselin, qui était président des Amis de Louis Aragon, qui m'avait fait découvrir certains aspects de l'œuvre poétique d'Aragon, C'est méconnu. Voilà.
Alors, Georges Catalot, il nous vient de Saint-Vincent, à côté de Villefranche-sur-Rhône, de la Citadelle, et il habite là depuis quand même quelques temps maintenant. Hein.
Plus de 50 ans.
Plus de 50 ans, oui. Vous êtes albigeois.
On peut se tutoyer.
Oui. Ah bon. Je dis ça parce que...
On est content, oui. Oui.
Comme on m'avait dit, il faut qu'on se voit, parce que sinon on va procéder du copinage.
Ah bon, non, c'est pas du copinage, c'est du bon voisinage.
C'est Nicole Gdalia qui m'avait...
Ah bon.
Oui, alors, oui, Georges.
Alors, qu'est-ce que donc, tu veux savoir?
Donc, né à Albi.
Oui.
Dans, alors, nous sommes à la même génération, c'est-à-dire cette fin des années 40.
Oui, les baby-boomers, responsables de tous les malheurs actuels.
Donc, une carrière d'enseignant.
Enseignant. Tu en parlais tout à l'heure. Voilà. Le hasard m'a fait croiser justement la famille Salvert, qui habitait entre Sainte-Gabelle-des-Bacarés et Haute-Rive. Voilà, et une grande famille.
Oui, on parle souvent d'Haute-Rive d'ailleurs dans ses livres.
Oui, 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 oui.
Donc une vie aussi vouée à la poésie et surtout au recensement de ce qui existe en poésie. Hein. On dit de Georges Catalot que c'est vraiment l'archiviste de la poésie depuis 50 ans.
Oui, hein. Ben oui, pourquoi pas. Voilà. Avec ces dangers que nous avait fait désigner du doigt, quelqu'un comme Jean Rousselot, Robert Sabatier, croisé aux journées de poésie de Rodez, hélas, qui nous manque beaucoup, et qui nous avait, tout jeune, avec Michel Baglen, prévenu, faites attention, parce que à trop faire de critiques, de lecture, d'archivage des uns des autres, on va en oublier que aussi il vous arrive d'écrire et de publier.
Oui. Alors ça, ce que tu dis est très vrai. Hein. Je pense à Jean Lemauve, je pense à comment s'appelait-il, Guy Lévi-Manneau.
Comme éditeur, oui. Mais comme critique comme également, il y a beaucoup de gens. Je parlais tout à l'heure de Lucien Vasselin, quand tu évoquais Aragon, Claude Verset, Jacques Morel, des tas de revuistes, Jean-Pierre Le Sieur, qui se sont dévoués corps et âme en tant que revuistes ou éditeurs pour les uns les autres, et on en oublie assez rapidement que ce sont d'excellents poètes.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que, comme par exemple Michel Cozem aussi un petit peu.
Ben oui, beaucoup.
Comme la revue Friche, Jean-Pierre Thuillat, par exemple. Jean-Pierre Thuillat qui a fait un travail considérable. Oui. Voilà.
C'est... Ah, s'il fallait les citer tous, à minuit, on n'aurait pas fini.
Oui, voilà. Alors, donc, Georges Catalot, on va le retrouver dans beaucoup de revues. Hein, tu es vraiment quand même le spécialiste des revues.
Tu
connais quasiment tout ce qui se paraît quand même en revue.
Oui, hein, quasiment, avec, il faut dire un mot quand même, que les revues dites papier sont en train de battre de l'aile énormément au détriment des revues écran. Oui. Et là, il y a une confusion. Bon, on est bien le 21e siècle, le siècle des confusions mentales, si on commence à en citer. Il y en a hélas beaucoup. Et ce n'est pas la revue papier avez ou la revue écran, c'est la revue papier et la revue écran. C'est quelque chose qui est complémentaire et des fonctions et des codes d'accès et de lecture complètement différents. Et là, bon, j'ai la chance, on va dire, d'être accueilli dans les deux types de revues actuelles. Dans les revues écran, il faut citer Terre à ciel de Cécile Guivarche, Recours aux poèmes, la revue Traversée également en Belgique, il y en a pas mal d'autres, hein. Ou des blogs, hein, comme le blog de Texture, les amis de Michel Baglen, dont on reparlera sans doute tout à l'heure. Voilà. Et puis dans les revues papier, bon, il faut citer Décharge, qui est la revue majeure actuelle, et qui a son complément en revue écran, animée par Claude Verset et d'autres. Et donc là, on voit bien si on a les revues papier des numéros de Décharge, qui va fêter son numéro 200, 50 ans de revue. Et ensuite que l'on aille sur le site Revue des Charges, on verra que les deux choses sont vraiment complémentaires. Voilà. Et il y a également un support qui est intéressant, ben, on y est ici dans une radio associative, c'est les chroniques sur radio. Alors, bon, je viendrai un peu plus souvent si tu m'invites, oui, donc... Oui, à Radio Occitanie, et j'anime également une chronique mensuelle à l'invitation de Christophe Jubien sur Radio Grand Ciel à Chartres. Ça s'appelle La Route Inconnue, où il fait découvrir la poésie vivante de façon magistrale. Voilà, alors j'anime une petite chronique intitulée Poète absent et poète présent, pour pas dire mort et vivant, et j'essaie d'associer un poète qui est décédé avec un poète vivant à partir d'un fil rouge. Voilà, alors il y a eu Pierre Gabriel et Casimir Prat, il y a eu Gaston Puel et Josette Segura, Jean Malrieux et Yvon Lemaine, une vingtaine, et bientôt il y aura Michel Cosem et Christian Saint-Paul.
Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que l'on peut, comment on peut écouter cette radio?
Eh bien, sur tapant Radio Grand Ciel et
c'est une radio. On peut l'écouter.
On peut l'écouter. Tout à fait. Par podcast, oui. Streaming.
Oui, d'accord. Elle est sur Internet aussi.
Ah oui, bien sûr.
Elle fait les deux.
Elle fait les deux. Oui.
Comme nous voit.
Oui, tout à fait.
D'accord. Voilà. Ben oui, il faut qu'on collabore.
Voilà.
Il faut qu'on collabore. Alors, c'est vrai que peut-être il faudra donner, et dans le compte rendu, peut-être
les
adresses et les liens pour s'abonner à... Alors moi, je reconnais, mais c'est mea culpa, hein, que depuis quelques années, j'ai complètement abandonné les revues parce que j'étais submergé par les livres de poèmes. Qui sont quand même très 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 nombreux, quoi que l'on en dise.
Oui.
Il y a une production très intéressante, mais aussi très abondante.
Très abondante, voilà. Oui. Et alors très variée.
Voilà, et très variée. Mmh. Oui. Alors que les revues, par exemple, pendant longtemps, j'ai collaboré à la revue Diérèse de Daniel Martinez. Hein, je faisais donc de lecture. Ces revues-là, d'abord, il y a beaucoup d'auteurs qui sont cités, etc. Ça prend quand même beaucoup de temps de les lire, en particulier bon, Diérèse, ça prenait quand même un volume qui faisait 150 pages à peu près. Et il y avait tellement
de matière
qu'en définitive, je me suis aperçu que je mettais beaucoup de temps à véritablement le finir. Alors que ce qui m'allait très bien, c'est la revue de Michel Cosem, parce qu'il y avait 16 pages.
Voilà. Alors, était-ce une revue?
Voilà.
Oui. Un débat.
Il n'y avait pas de note de lecture, il n'y avait pas. Voilà. Mais ça me donnait une œuvre, et il a quand même publié des grands noms. Hein, que l'on pouvait lire immédiatement, 16 pages, ça y est. On pouvait le retenir, etc. Voilà. Mais c'est vrai que tu as raison, il faut revenir peut-être et travailler avec les revues. Voilà. Donc on peut inciter peut-être les gens qui écrivent de poèmes, d'abord à connaître cette poésie. Effectivement, ils vont la connaître par la... Quoique maintenant, il y a beaucoup, beaucoup quand même de livres de poèmes facilement accessibles. Hein. Et découvrir aussi donc, par les revues. Donc, je donnerai les coordonnées sur le site lespoètes.site. Hein, on fera ça. Voilà. Alors, Georges Catelot, donc, c'est quand même 50 ans facile de poésie et surtout de création poésie. Hein, puisque en dehors du commentateur et en dehors de la vigie qui scrute ce qui se passe dans le paysage poétique, qui est un paysage qui se métamorphose d'année en année, Georges Catelot écrit des poèmes. Alors, il a une œuvre abondante depuis tout ce temps. Il serait bon d'ailleurs, c'est une suggestion que je fais, c'est que tu commences à travailler à ton anthologie.
Mais quelqu'un dont on va parler avait fait ça il y a pas mal d'années, il y a plus de 20 ans. C'est notre ami qui nous manque beaucoup, Michel Baglen, qui, en plein succès de sa revue Papier Texture, alors qu'elle approchait les 400 abonnés, un beau jour m'a dit « Bon, j'arrête Texture ». Ah, oui, et puis c'est pour publier un numéro double qui s'intitulera « Anthologie de Georges Catelot ». Et il n'y a pas de négociation possible. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? La générosité. Mais... Oui, oui, parce que je n'en peux plus. Il était débordé par X activités professionnelles et autres. Et il est allé jusqu'au bout. Je dis, mais non, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sabordes ta revue en plein succès, là, puisque c'était le grand succès des revues papier à l'époque. Il n'y avait pas encore Internet. Je dis, non, non, il n'y a pas de négociation possible. C'est comme ça. J'ai déjà fait la préface, j'ai plusieurs titres, et puis on a négocié là sur le titre, c'était finalement ligne de charge, ce sont ces lignes peintes sur les bords des bateaux qui indiquent à quel moment il faut trop arrêter, surcharger.
Il faut le frais.
Voilà, c'était Michel, et là on reparlera tout à l'heure, je souhaiterais l'association Texture.
Est-ce que c'est accessible encore ça?
Non, il est comme l'auteur.
Et voilà.
Alors parce qu'il avait dit, voilà, toutes les petites plaquettes, il y en a une vingtaine, elles sont à tirage confidentiel, limité, c'est mignon, tout plein, tout ce que tu voudras, mais on ne les trouve plus.
Voilà.
Alors en faisant ça, elles ont été disponibles un certain temps. Voilà.
Donc tu pars déjà avec une base qui est bien...
Oui,
qui est déjà bien débroussaillée.
En répondant à la demande de certains éditeurs, puisque bon, tu parlais de Vigie, là j'aime bien cette métaphore, puisque depuis plus de 20 ans, mais je l'arrête là au numéro 200 de décharge, j'ai animé une chronique qui paraît 4 fois par an, qui s'appelle « Phare dans la nuit », où je présente 4 éditeurs, confidentiels bien sûr, à compte d'éditeurs, il est hors de question de faire la promotion des escrocs des comptes d'auteurs qui arrivent masqués souvent. Et là, on a la satisfaction d'un retour de ces personnes-là qui sont ravis qu'on les mette un peu en lumière. Et cerise sur le gâteau, il y a également des retours en tant qu'achat, abonnement, quand il y a des formules, et il y a des pépites dans ces micro-éditeurs. Voilà. Et là, comme la matière s'arrête, je vais arrêter au numéro 220 ans, ça dommage. Ça fait plus de 80 micro-éditeurs présentés. Voilà.
Alors, dans les dernières parutions, on peut remonter, si tu le veux bien, on va remonter à 2014.
Oh, oui, hein? Non,
oui,
non.
2019.
Non, les plus récents, voilà. Peut-être.
Alors, les plus récents, c'est sous la ramée des mots, éditions Henri. Une excellente édition aussi, hein, avec une illustration couverture d'Isabelle Clément. Alors, vous pouvez donc vous procurer ce livre, c'est 48 pages, il vous coûtera 8 euros. Qu'est-ce que on peut dire de...
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, des éditions Henry, oui, dirigées par Jean Le Boël, elles ont basculé aux éditions de La Rumeur Libre, de les éditions lyonnaises, de Iacovella, qui les ont pris sous leur... Voilà. Et donc là, il y a eu, ont paru aux éditions Henry trois titres, en référence au mot, et ce, à la demande de Jean Le Boël, qui trouvait que je m'éparpillais avec beaucoup de poèmes publiés dans des revues, des poèmes dédiés à des personnes, des amis, des proches, de la famille, etc., et qui a souhaité rassembler ça. Et comme ça a bien marché, il y a eu un deuxième titre, et puis un troisième qui est paru l'an dernier, qui s'appelle... En alliance des mots, et si tu le souhaites, je peux en lire quelques extraits. Alors, En alliance des mots...
Ça, c'est plus récent.
C'est très récent.
L'année dernière.
Oui, l'année dernière.
Toujours avec une couverture de la même,
Isabelle
Clément.
Oui, et avec une exergue qui vient de Michel Baglin, qui dit ceci. Les mots sont donc encore, et sans doute pour longtemps, les alliés des enthousiastes qui veulent appareiller pour le réel. Voilà. Michel Baglin avait utilisé ça, donc une alliance avec les mots. Et là, si tu le souhaites, je peux lire quelques extraits. Et j'ai choisi, pas par hasard, par choix délibéré, des poèmes dédiés à des amis qui tous participent à l'association des amis de Michel Baglin. Vous pouvez aller sur le blog Texture, les amis de Michel Baglin. Vous verrez, 4 ans après le décès de Michel, nous sommes une centaine d'adhérents actifs. Et il y a...
Il y a également une publication écrite aussi.
Voilà, il y a le quatrième revue anthologique annuelle qui est en train de sortir. Elle vient de sortir de chez l'imprimeur et tous les adhérents la recevront gratuitement et on en fera la publicité. Alors j'ai choisi quelques poèmes comme...
Tu viendras parler quand ça va...
Oui, quand ça sortira, d'accord.
On fera une émission spécialement
sur cette... Ah ben avec plaisir, oui, parce que...
Oui, il faut marquer le coup.
Oui, marquer le coup, d'autant plus que Michel était quelqu'un, athlète tout terrain, avec Iverté, c'est les deux seules personnes que, à ma connaissance, qui connaissaient tous les codes des différents genres littéraires, que ce soit le récit, le roman, la nouvelle, le poème lyrique, et même le théâtre, à quoi ils se sont... Et avec autant de réussite dans ces domaines. Il y en a qui peuvent s'essayer, mais le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérants. Et c'était deux personnages qu'on a eu la chance de croiser, et qui sont des phares pour nous. Quelques poèmes dédiés à des amis, en alliance des mots. Voilà, alors le premier poème, c'est un poème dédié à notre très cher président, Jacques Ibanez, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, qui était en train de mijoter des confitures de figues.
Dans l'Aude.
Dans l'Aude. Ça s'intitule Lessive à Jacques Ibanez. Aucun espoir pour que s'achève les rendez-vous avec le diable, les lâchetés, les arrogances du divin foutoir quotidien. Aucune raison pour que s'arrêtent les combines et les coups bas, les pactes avec les termites. Incapable d'aller plus loin, faisant notre mea culpa, le temps d'aiguiser les couteaux, en attendant la grande lessive. Alors, un autre poème dédié à Régine et Guy Bernot, qui sont les chevilles ouvrières de la société. Ça s'intitule « Filet » au pluriel. Relevez chaque jour les filets d'une pêche miraculeuse, afin de se rassurer sans se disperser. Simple question de survie. Et les gardiens de la peur auront beau souffler sur les braises du doute, vous avancerez de front avec les mots devinés posés sur la page blanche, avec les images furtives fixées sur la pellicule. La vraie référence, pour ceux qui connaissent Régine et Guy Bernot, Régine écrit et Guy est photographe. C'est un photographe très très brillant. Oui. Un troisième, un ami de longue date que Michel adorait, qu'il a publié d'ailleurs, c'est Saïd Mohamed, qui est à la retraite désormais. Ce poème s'intitule « Frontières ». Si tant est qu'écrire pour écrire soit une frontière, alors à quoi bon s'entêter, se découvrir, se dédunder, voyager sans changer de place. On sera toujours et encore en exil de soi-même. Comme un oiseau, il faudrait survoler les frontières entre les mémoires, écrire dans le marbre le moment où se brouillent les idées, les mots, les images. Un poème dédié à Jackie Baglin, qui a affronté avec beaucoup de courage les épreuves de la disparition de Michel. Le poème s'intitule « Livre ». Il fait un peu référence à un poème bien connu de Claude Roy sur un coquillage. « Livre à Jackie Baglin. Placez le livre contre votre oreille comme un coquillage terrestre. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Soyez attentive à ses secrets, au nid caché, au creux de ses branches. » Il murmurera à votre oreille ce qu'il a vécu quand il était arbre. Le peigne du vent dans les feuilles, les racines oubliées et tant de graines dispersées. Je peux peut-être finir avec un dédié à ma chère Marie-Claude. Rire. Elle rit, elle laisse le vent jouer avec son chemisier. Et les gouttes de son rire coulent sous les ronces, où la terre muette brûle en silence. Alors, tel un nuage, elle avance lentement, ne laissant dans son sillage ni trace ni empreinte, et le jour se referme sur son rire. C'est extrait de Marie-Claude. Oui. Ah oui, non mais c'est l'ouverture et la fermeture des trois livres dédiés.
Marie-Claude.
Oui,
ben elle de suite qu'elle fait également des collages.
Des collages, ben oui.
Des collages. Elle avait illustré La Cendre de nos jours.
Oui.
Très bien que tu nous lises un texte
de La Cendre de nos jours. Oui. Après, alors. Là, je n'avais pas choisi. Là, c'est un...
Près des yeux, près du cœur aussi, c'est très beau.
Près des yeux, près du cœur, c'était un livre dit pour enfants, à la demande, pareil. C'est souvent à la demande d'amis éditeurs qui en ont assez de voir des poèmes éparpillés dans des revues ou sur Internet et qui me demandent de les rassembler, ce que je fais. Alors, on a un numérique... Allez, allons-y, un poème de circonstance sur l'enfouissement des déchets radioactifs. Alors on dit déchets comme si c'était des poubelles, alors que ce sont des produits qui vont durer jusqu'à 38 000 ans et qui vont empoisonner cette planète. Alors ça s'intitule, je ne sais pas pourquoi je lis celui-là, mais si, pourquoi pas. Et puis il y a Citadelle aussi. Bon. Colis.
C'est moi qui l'ai
mis le... Il a mis le marque-page. Oui, c'est sur l'enfouissement des déchets radioactif à Bure dans la Meuse. C'est référence à ça. De mystérieux colis arriveront par train entier au centre d'enfouissement bourré jusqu'à la gueule de déchets radioactifs. Ce seront de drôles de colis. Ces encombrants seront plongés à 500 mètres sous terre dans des niches à l'horizontale, ensevelis pour des milliers d'années. Ils auront pour mémoire ultime des informations codées, gravées sur disques de saphir. Ainsi, les générations futures pourront être informées de notre folie criminelle où irradiation et contamination se poursuivront peut-être jusqu'à 100 000 ans.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de sujet propre à la poésie. La poésie.
Ah oui, c'est ce qu'on avait évoqué pendant un moment. Est-ce qu'on a surnommé la poésie ou nommé la poésie du quotidien? Et avec Michel Baglin et d'autres, comme Jean-Claude Martin, Lucien Vasselin, François de Cornière, on préférait la poésie du vécu. Et on était adoubé en ce sens par Georges Mounin, qui était quand même un connaisseur. Pas n'importe quel dans ça, il nous disait oui, c'est dommage, la poésie du vécu c'est beaucoup plus parlant et en phase directe avec la réalité et même le réel. Voilà, alors là, peut-être que je pourrais lire des excès d'un petit livre qui... si on est dans les clous, qui vient de paraître à tirage limité à la demande de une personne très talentueuse qui écrit sous double titre, et c'est à la fois un peintre et un poète qui travaille sur Clermont-Ferrand. Il avait vu et lu dans une revue encore cette suite.
C'est comme un livre d'artiste.
Voilà, c'est comme un livre d'artiste tiré à 70 oui. exemplaires.
C'est un livre d'artiste, en définitive.
Oui, oui, et non, oui, mais imprimé, 5 euros. Je... Voilà. Oui, oui, oui. Et il avait lu ça, ça lui avait plu. Ce sont des quatrains, des doubles quatrains. Et c'était, j'avais écrit ça en 2013, 2014. Et puis au moment du Covid, de certaines personnes m'ont dit, mais il y a un côté un peu visionnaire, on ne va pas dire poète, prophète, surtout pas. Mais là, j'aurais préféré me tromper, ce sont des doubles entrées. Par exemple, le vacarme et le silence, la paix et la guerre, ils ont peur de parler et de se taire, la lâcheté et le courage, ce sont des choses qui vont ensemble. Peut-être si tu le souhaites,
oui, oui, bien sûr, pour ça.
Ils ont peur du vacarme et des remous de leur cerveau, et du vide qui les entoure, et du trop-plein de chaque jour. Ils ont peur du silence, et du poids des secondes, qui s'égrènent à la vitesse du feu, aspirés vers un gouffre invisible. Ce double quatrain, là aussi, qui est hélas de sinistre actualité. Ils ont peur de la paix, de la sournoise et sourde alliance, des pactes de non-agression, du calme plat avant la tempête. Mais ils ont peur de toutes les guerres, atomiques et bactériologiques, des guerres de sang et de religion, de toutes les guerres aux gueules béantes. Ils ont peur de parler, d'amorcer une source de mots, d'inonder de slogans et de cris, forums, journaux et tables rondes. Ils ont peur de se taire et de laisser filer le temps, sans avoir plus rien à dire, entre deux bavardages insipides. Ils ont peur de l'espoir et des traces qu'ils laissent parfois sur la poussière des meubles familiers ou sur la rosée des matins d'avril. Ils ont peur de l'effroi qui se cache sous les planchers à la tombée du jour ou de la nuit, prêt à bondir sur tout ce qui bouge. Oui, le dernier, double quatrain. Ils ont peur de vivre avec les couleurs qui se croisent, avec des mots qu'ils entendent à peine, copeaux qui tombent, sciures qui volent. Mais ils ont peur de mourir en serrant une main froide, main à plume ou main à charrue, qu'ils ne peuvent sauver de l'oubli.
C'est un très beau livre, donc on aura les coordonnées, hein, de manière, parce que, alors, il y a aussi, parce que les illustrations sont vraiment très très...
sont de Lionel Ballard, ouais. Qui a écrit aussi sous pseudonyme des poèmes.
D'accord.
Bon, c'est une belle personne, le voilà quelqu'un aussi, micro-éditeur, alors, les cahiers des passerelles.
C'est magnifique, et c'est très abordable, puisque c'est 5 euros.
Oui.
Hein, c'est tout, très très bien fait, c'est vraiment très très bien fait.
Très bien fait avec ses élèves de l'université de Clermont-Ferrand. Il fait un travail sur les techniques d'imprimerie, de xylographie, d'illustration, de gravure. Et il publie une anthologie annuelle où les travaux de ses élèves arrivent en regard de poèmes qu'il a sollicités, de poètes qu'il a sollicités. Voilà.
Oui, le centre du jour. Citadelle, tu n'as pas lu
Citadelle, je ne l'ai pas lu. Oui, il faut dire que Toulouse, comme tu le disais, est la banlieue de la citadelle. Moins poétique que la poste, maintenant numérotée, notre maison 559, route de Trébons. C'est moins poétique que le lieu dit. Oui, c'est le lieu dit, la citadelle.
On va à la citadelle.
Bon, allez. D'ici de là, de toutes parts, tout autour et plus loin encore, l'œil taquine les horizons. Et oui, on voit à 360 degrés. Cernée par les vents rebelles, la citadelle se rebiffe entre les vagues des collines et les crues continues des nuages. Larges étendues où se perd le regard, dans une soif inaltérable, dans un désir inassouvi. Alors, pris dans une course folle, comme par miracle, tout s'ouvre et tout se referme.
Alors, c'était à la fois un poème du lieu, Et un poème du temps aussi.
Oui, d'ailleurs, à propos de lieu, tu évoquais Michel Causer, on n'a pas eu le temps de concrétiser ce projet. Ça serait appelé La Petite Toscane, qui est le surnom du Lauragais où je vis. Et il souhaitait que je rassemble des poèmes autour de ce que j'avais fait. Et la disparition de Michel a empêché la
concrétisation. Et ailleurs.
Peut-être.
Oui. Alors, la citation d'elle, je reprécise, c'est la maison de Georges Catelot. Donc,
c'est le nom du lieu-dit.
Voilà, du lieu-dit dans lequel il habite.
Voilà, et puis il y a encore d'autres projets en cours aux éditions Gros Textes.
On va finir sur des textes, Georges.
Oui. Des textes, oui. Alors, quelque chose qui est en train de se préparer.
Si c'est possible, effectivement.
Comment ?
Des inédits,
voilà, oui, ça s'appellerait normalement « Nom propre au singulier ». Ça va apparaître chez Yves Artufel aux éditions Gros Textes. Pourquoi ça ? Parce que... vraiment des éditions qu'il faut absolument défendre, qui se situent à Châteauroux, les Alpes, pas le Châteauroux. Et il y avait déjà deux recueils qui avaient paru chez lui, qui sont épuisés, qui s'appelaient « Nom commun » et « Nom commun deuxième vague ». Et là, c'est pareil, il y avait des textes qui avaient paru par-ci, par-là, des quotidiennes, ou qui incluaient des noms des noms propres de personnes. Et ce sont ce que j'appelle des quotidiennes, c'est une espèce de flash de lecture.
On en a parlé.
Allez, quelques-unes.
Oui.
Dites donc, les poètes, il y a un âge pour mourir ? À 46 ans, comme Nerval ? Ou à 37, comme Rimbaud ? Ou bien encore moins à 32, comme François Villon ? Ou à 20, comme Radiguet ? Faut pas encombrer l'espace. Vivre trop vieux lasse les foules. Un deuxième, sur Goethe. Comme il ne pouvait plus écrire, Johann Wolfgang Goethe hurlait tant qu'il pouvait sur son lit de mort. Dans la pénombre de sa chambre, il hurlait et répétait son chant du cygne et de poète. Mère Licht, plus de lumière, un troisième. Souvent piégés par le destin, les créateurs en fin de vie s'enfoncent dans le malheur. Ravel et sa tumeur cérébrale, Baudelaire misérable et ruiné, Renoir, avec ses doigts crochus, ne pouvant plus tenir un pinceau. Villon, devenu voleur pour survivre. Et tant de poètes disparus, oubliés. Un dernier, peut-être ? Allez. Comme le scorpion, mon frère, chantait Nazim Hikmet. Tu es comme le scorpion. Ou disons plutôt que tu aimerais être comme lui. À tenir plus de 2 ans sans boire et sans manger. Coriace la mémoire, porteuse d'espoir fou, ainsi n'a déjà Mandelstam, sauvant de l'oubli des centaines de poèmes de son compagnon Ossip, poèmes qu'elle a pris par cœur et qu'elle se récitait en prison en espérant en sortir. Un jour, le peintre Degas s'offrit un tableau du Gréco pour le suspendre à un clou dans un coin de sa chambre. Et tous les soirs, immuablement, il ôtait son pantalon et ses habits pour les suspendre à ce même clou. Le jardin de la poésie serait... disait Ronsard, ce grand paradis aux 100 000 couleurs. Ronsard l'évoque entre rêve et réalité, comme il le fit à la fin de sa vie, se réveillant de son coma, pour dicter d'une voix douce 2 sublimes sonnets, juste avant de s'éteindre. Allez, un dernier, à l'évocation de notre ami Iverté. Et quand nous serons morts, resteront de nous, peut-être, Iverté nous le rappelait, quelques petits poèmes en témoignage ou en rappel, traces de moments vécus entre visibles et invisibles, entre estrants de terre et d'eau, entre silence et parole.
Georges Catello. On peut, parce que nous n'avons pas épuisé le temps.
Ah bon?
Donc,
évoquer quoi?
On pourrait peut-être soit reprendre des poèmes de la cendre de nos jours. Chez...
Est-ce que un poème de Gaston Puel pourrait vous...
Oui. Hein? Non, mais, alors, mais pour... on n'est pas là. On a encore quelques minutes.
Oui.
On fera ça à la fin.
D'accord.
Moment, hein?
Oui.
Voilà. Tu vas nous lire peut-être des poèmes de la cendre de nos jours. Moi, est-ce que alors, tu veuilles...
Oui, pourquoi pas. Ou d'un alliance des mots, oui. Des poèmes dédiés que je n'ai...
Oui.
Alors, dédiés toujours à des gens qui... Pas seulement adhérents. Dédiés à Pierre Maubet, qui a des poète de la région. Est-ce que tu l'as reçu à Radio Occitanie?
Oui, certes.
Oui. Et ça s'intitule Tant, T-A-N-T, Tant, à Pierre Maubet. Tant que je pourrais rêver, m'éverveiller devant la fleur, l'oiseau, la source de vie, tant que je pourrais m'émouvoir devant l'urne violine des cendres d'un ami, tant que je pourrais respirer jusqu'à mon dernier souffle, arbitrer le vieux combat entre l'absence et la présence, tant que je pourrais, je vivrai jusqu'à la dernière seconde, si lointaine et si proche. Il faut dire que Pierre Maubet est malade et donc c'est une résonance particulière.
Parfait.
Arc-en-ciel dédié à Colette Klein, qui dirige aussi une revue annuelle qui s'appelle Concerto pour Marée et Silence à Paris. Colette Klein, qui adhère aussi aux amis de Michel Baglin, elle était... Mais le poète Michel Baglin, le poète aux mille amis, il avait bien... Voilà, ça s'intitule Arc-en-ciel. Et s'il avait tellement plu que l'arc-en-ciel aurait fini par perdre ses couleurs, disons qu'il aurait coulé lentement, très lentement, sur un mur ou sur une porte, et que la porte s'ouvre enfin sur de nouveaux horizons, et que les fleurs juste à côté en pleureraient de jalousie.
Alors juste avant, il y avait ce poème « Détour ». Page 13.
Oui.
Tu fais référence également à René Crevel.
Oui, mais voilà. Je fais référence aussi à une vraie libraire qui est à Naïoux. Alors, auditeur, auditrice, si vous passez dans la région du Lauragais, surtout faites une halte à la librairie Détour, animée par Nathalie Fontaine et qui avait fait une thèse justement sur René Crevel.
Voilà. Si vous me demandez pourquoi.
Pourquoi? Ben le pourquoi. Voilà. Tu me donnes la page parce que je l'ai.
Page 13.
13. Voilà.
Alors, René Crevel, dont on ne parle plus maintenant.
Et c'est bien dommage.
Et voilà. Qui a marqué le 20e siècle. Qui a marqué le 20e siècle.
Et.
Gaston Puel adorait René Crevel.
Je sais, oui.
Hein, oui.
Voilà. On terminera. Et Nathalie Fontaine, dont a eu le courage de monter une vraie librairie. Oui. Ce n'est pas une marchande de papier. À Naïoux. Dans le village. Et nous sommes vraiment ravis que ça marche bien. Et c'est une vraie libraire qui sait aller dénicher des tours. Allez, si on a une librairie, ça imprime des tours. Et pour ceux qui aiment bien les énigmes, il y a dans ce poème 4 ou 5 titres de livres de René Crevel. Détour à Nathalie Fontaine sous l'ombre tutélaire de René Crevel. Ici, les livres sont les rois. Ils font des tours. Et des détours, dans une folle odyssée immobile. Ils jouent l'esprit contre la raison, ils mettent les pieds dans le plat. Feuilles éparses ou fort volume, ce sont d'étranges personnes. La reine de cette ruche leur dit « Êtes-vous fous ?» Elle butine des uns aux autres et fait son miel de tout ouvrage. Quand, de la librairie au jardin, elle glisse, attentive et fidèle. De vrais libraires, ça existe encore. À Toulouse aussi, il y en a. On pourrait finir avec...
Oui, ce poème...
Ce poème de Gaston Puel, qui est, on va dire, allez, s'il fallait dire... un père spirituel, celui qui a 15-16 ans est découvert, rencontré, c'était une irradiation vis-à-vis de l'écriture et de la poésie. C'est peut-être pas très gai, mais c'est tellement actuel. Le vieux poète de Gaston Puel, dédié à Georges Moulin, dont on parlait tout à l'heure. Personne n'est venu, il reste seul. Ses branches geignent, ses cahiers sentent la cendre froide. La porte grince, un chat ronronne à ses pieds. Déjà l'automne, le vent chuchote à la vitre, seul, plus seul, encore plus seul. Près de la fenêtre, une feuille rousse tremble au bout d'une branche. Dans l'âtre, des tisons marmonnent. Il y a longtemps que le poète se tient au chevet des braises mourantes. Il pense toujours à ce poème qu'il n'a pas écrit, un poème rouge et lointain, comme un soleil derrière les branches.
Gaston Puel. En t'écoutant, j'avais la voix de Gaston Puel qui revenait dans ma mémoire. C'est très, très curieux comme sensation. Oui. Un poème magnifique. Merci. Poème magnifique. Merci. Magnifique. On va rappeler, Georges, puisqu'on arrive maintenant au terme de cette émission, on va rappeler, Georges, si tu le veux bien, tes derniers ouvrages. Alors, vous allez le trouver...